Presse sera donc présenté par Jean-Claude Comé. Bonjour Linda.
Bonjour aussi Pota.
Voilà, merci. C'était pour tester la voix pour voir si ça va bien. Musique, oui. Et vous prenez donc l'antenne pour le journal de 7h.
Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue à ce premier rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs sur Radio de la paix. À la une de notre actualité, un projet de loi dans le cadre des mesures générales portant modification de la loi relative au pouvoir exécutif et législatif a été adopté hier en Conseil des ministres. Vous aurez le point de Jean-Claude Mabéa dans cette édition. Et puis gestion des prévisions de trésorerie, le PAGEF renforce durant 5 jours les capacités d'une 30aine d'agents de la Direction générale des financements à Yamoussoukro afin d'assurer une gestion plus efficace de celle de l'État exécutée par les comptables publics. Dans l'actualité sur le continent, en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou et son parti ne déposeront pas de candidature en raison du fichier électoral pas très fiable, selon lui. Et pour savoir ce que disent les unes des journaux ivoiriens parus ce jeudi, vous aurez la revue des titres présentée ce matin par Jean-Claude Comé, après qui nous retrouverons Soro Adams, qui dans le cadre de l'invité de la rédaction reçoit la secrétaire générale et porte-parole de Women Caucus for Lobbying, section Côte d'Ivoire, maître Francine Akaangui, l'organisation qui a récemment demandé aux partis politiques d'appliquer la loi d'octobre 2019 relative au quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. Ce sera en toute fin d'édition. Voilà pour nos grandes lignes. Modification de la Constitution. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi 12 juillet, présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi sur la question concernant les pouvoirs exécutifs et législatifs. Des détails avec le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, que nous écoutons.
Ce projet de loi prévoit la révision de quelques dispositions de la Constitution lié essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. Il instaure notamment 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, de façon à faire coïncider la période du travail parlementaire à celle du travail gouvernemental et coordonner au mieux le processus d'élaboration des textes législatifs et la conduite des affaires de l'État. En outre, les chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16 portant sur les dispositions transitoires et finales intitulées respectivement de la désignation du vice-président de la République et de la vacance de la présidente de la République et du statut des institutions et contenant les articles 179 à 182 étant devenus caducs, ils sont appelés à être abrogés.
Nous écoutions le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly. Parlant d'élections municipales et régionales couplées du 2 septembre prochain, la réception des dossiers de candidature ouverte depuis le 1er juillet prend fin le 19 juillet 2023. Mais les candidats potentiels indépendants, tout comme les partis politiques, ne se bousculent pas au guichet ouvert pour la circonstance. Au siège de la commission électorale indépendante, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et RHDP a fait savoir hier qu'il sera dans le temps. Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral au RHDP.
Au niveau du RHDP, il n'y a aucun souci. Les dossiers des candidats vont être déposés à la commission électorale indépendante dans les délais requis. Nous sommes dans notre chronogramme. Le jeudi 13 juillet 2023, le président du parti, son excellence Alassane Ouattara, va procéder à l'investiture de l'ensemble des candidats du RHDP. Après cela, les dossiers des candidats du RHDP vont être acheminés progressivement à la CEI, étant entendu que nous respecterons les délais qui ont été donnés par la Commission électorale indépendante. Nous avons déjà reçu, au niveau du secrétariat exécutif adjoint chargé des élections, nous avons reçu des dossiers, nous procédons à des vérifications. Et si nous constatons qu'il y a des manquements, nous demandons aux candidats d'aller faire les compléments ou faire les corrections avant d'envoyer les différents dossiers à la Commission électorale indépendante. Donc c'est ce travail qui est en cours. Et donc, juste après l'investiture, vous nous verrez à la Commission électorale indépendante.
Alors, le RHDP respectera-t-il le quota des femmes?
Oui, le RHDP va respecter le quota des femmes. C'est une obligation légale, mais c'est aussi une volonté politique au niveau du RHDP.
Et tout comme le RHDP que vous venez d'écouter, le FPI de Pascal Affine Guessan rassure ses militants, ses sympathisants et la population qu'il déposera à temps la liste de ses candidats. Le parti est en ce moment en train de procéder au tout dernier réglage avant ce dépôt de dossier de candidature. Sangaré Siaka, le secrétaire général et porte-parole du FPI.
Il faut dire que rien ne coince. La liste des dossiers donc à fournir demande la mise en œuvre d'un ensemble de diligences, notamment pour les aspects relatifs aux certificats de nationalité, les aspects relatifs aux effets d'acte de naissance, la régularité fiscale. Donc il y a déjà ces éléments. Les pièces sont en train d'être réunies et donc acheminées et pour être centralisées au niveau de la direction du parti. Et de l'autre côté, vous savez bien que dès lors que nous avons signé un partenariat avec le RHDP, et comme on a dit, si nécessaire, il y a des alliances locales qui peuvent être mises en œuvre par rapport à ces élections-là. Il faut aussi tenir compte de la présence des femmes, telle qu'il a été arrêté. C'est donc dire que tout est en train de se mettre en marche et que certainement, à partir de ces jours à suivre-là, la plupart des dossiers seront présentés.
Mais au FPI, allez-vous être dans le temps?
Oh oui, il est bien évident qu'il n'y a aucun problème sur cette question. La plupart des dossiers sont en train de rentrer et les échanges avancent très bien dans les circonscriptions où nous sommes en partenariat. Nous estimons que le délai pourrait être tenu en l'état actuel des choses.
À l'instant, le secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien Sangaré Issiaka. Avant lui, vous avez entendu Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP. Tous deux ont été joints par Soro Adams. Et rappelons que les guichets pour la réception des candidatures sont ouverts de 8h30 à 17h tous les jours, samedi et dimanche y compris. À l'intérieur du pays, la ville de Yamoussoukro abrite depuis mardi et ce sur 5 jours un séminaire de formation des agents de la Direction Générale des Financements sur les prévisions de trésorerie. Initié par le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, cette formation a pour but de permettre aux participants de s'approprier les techniques de gestion de la trésorerie afin d'assurer une gestion plus efficace de la trésorerie de l'État. Des détails avec vous, Emilia Ou.
Dans un contexte financier mondial difficile où la gestion financière devient un enjeu central, il importe de revoir les méthodes, connaissances et techniques nouvelles qui permettent d'être beaucoup plus efficaces, se félicite Jules Koulibaly, directeur général adjoint des financements.
Ce séminaire constitue incontestablement une véritable opportunité qui permettra d'apporter de sérieuses perspectives aux différentes préoccupations. C'est en cela que je me félicite de la qualité des participants qui augurent d'échanges fructueux et pertinents, desquels découleront des propositions concrètes qui nous aideront à contribuer significativement à l'amélioration de la gestion de notre pays.
C'est d'ailleurs pourquoi le coordonnateur adjoint du projet d'appui à la gestion économique et financière d'Éré Victorien exhorte les auditeurs à tirer une meilleure partie de cette formation.
Chers participants, cette formation est une opportunité qu'offre le projet PAGEF pour accroître vos niveaux de connaissances sur le concept de trésorerie, la gestion prévisionnelle de trésorerie et sur tout autre concept lié au sujet, afin d'assumer pleinement cette fonction.
Ouattara Nabi Brahima est le représentant du directeur du Centre d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest.
Je dois dire que le sujet est au centre des préoccupations mondiales et singulièrement de notre région. En effet, renforcer aujourd'hui les capacités des acteurs en charge de la prévision et de la gestion de la trésorerie, c'est donc contribuer fortement à permettre à cette fonction vitale pour l'État de jouer pleinement sa participation.
Prévue pour s'étendre sur 5 jours, cette formation est financée par la Banque africaine de développement. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et après Yamoussoukro, rendons-nous dans le nord où la pose de la première pierre du 4e centre de service civique a eu lieu le 7 juillet dernier à Thioro Niaradougou, localité située à environ 5 km de Korogo. À travers la construction de ce centre, il est question d'accorder une seconde chance aux jeunes en difficulté qui bénéficieront de la formation à un métier pour garantir leur insertion dans le tissu socio-économique, d'un encadrement civique et citoyen avec un accent mis sur des valeurs comme la fraternité, le courage, la rigueur, la discipline, entre autres. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
La lutte contre la vulnérabilité des jeunes à travers le centre de service civique est assortie d'une innovation annoncée par Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique.
J'ai décidé d'avoir une gouvernance inclusive, donc un conseil de gestion dans chaque centre de service civique, avec l'implication des collectivités territoriales, représentation donc des régions, des mairies, des préfets, des chefs de village, etc., pour que la gestion du centre de service civique soit vraiment l'affaire de tous.
Quid de la prise en de ces jeunes, il explique.
Ils ont un parcours donc de 9 mois, 2 à 3 mois de prise en main par la gendarmerie, l'armée, pour inculquer les notions de discipline à ces jeunes. 4 à 6 mois d'apprentissage à un métier, donc des ateliers de formation, et qui permettraient donc à ces jeunes-là d'embrasser des métiers dans le domaine de l'agriculture, de l'écologie, coiffure et esthétique.
Une politique en faveur de la jeunesse et des objectifs annoncés par Fidel Sarasoro, ministre et directeur de cabinet du président de la République.
D'ici 18 mois, ce sont 14 centres de service civique d'une capacité annuelle de traitement de 1000 jeunes chacun qui seront construits, portant ainsi à 14 000 par an notre capacité de traitement des jeunes en situation difficile, des jeunes que nous avons souvent laissés en cours de route.
Retenons que le centre de service civique de Thioro Niaradougou sera fonctionnel dans 7 mois, soit en février 2024. De retour de Thioro Niaradougou, Marcel Bonny Korogo, Radio de la Paix.
Sur le continent, en République démocratique du Congo, au cours d'une conférence de presse très attendue, l'opposant congolais Martin Fayulu a dit hier mercredi que cette fois, ça ne passera pas après le refus de la Commission électorale nationale indépendante de revoir le fichier électoral. La fin de non-recevoir brandie par la Commission électorale nationale indépendante CENI est pour Martin Fayulu la provocation de trop. Si l'opposant refuse de parler de boycott, lui et sa coalition ne comptent pas se présenter. Il estime que sur près de 44 millions d'électeurs, au moins 10 millions sont des noms fictifs. L'opposant réitère donc que lui et son parti ne déposeront pas de dossier de candidature, se disant avoir l'obligation de faire échec à toute forme de dictature. Parlons sport, football. Après la Tanzanie en 2022, l'Afrique se donne rendez-vous aujourd'hui à Abidjan dans le cadre de la 45e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. Initialement prévu au Bénin, cet événement se déroule dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et donc en marge de son rendez-vous. On devrait connaître le tirage au sort des groupes concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique. Et puis nous en arrivons à la revue des titres pilotée aujourd'hui par Jean-Claude Comé. Alors que disent les unes des journaux parus ce jeudi? Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Linda Balier, bonjour à tous. Les chiffres ont été communiqués hier en Conseil des ministres et c'est Fraternité Matin, le Patriote qui s'en font écho. Il y a eu 30 morts dans cette saison des pluies depuis avril. Saison des pluies, l'État déplore 30 décès, écrit le Jour Plus, qui annonce que des dispositions sont prises pour soutenir les familles des victimes. Autre sujet du Conseil des ministres qui capte l'attention de Fraternité Matin et le mandat, c'est en lien avec la fonction publique, notamment au sujet du départ à la retraite. Ses confrères annoncent des changements. Le gouvernement fixe une date unique pour le départ des fonctionnaires à la retraite, précise l'Essor. De la politique, il en a été également question lors de ce conseil, nous apprend le Patriote qui relaie un message du porte-parole du gouvernement à l'endroit des dirigeants du PPACI. Ne donnez pas raison aux Ivoiriens qui étaient sceptiques. Le PPACI a invité donc à un discours qui ne donne pas raison aux sceptiques, annonce également l'intelligent d'Abidjan, idem pour le matin, pour qui le gouvernement hausse le ton contre le PPACI et met en garde Kone Katina. Attaque gratuite contre le gouvernement Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement recadre le PPACI, renchérit l'expression. Et puis le gouvernement crache ses vérités au PPACI, enfonce donc le confrère, le Jour Plus. Et cela face aux accusations de Kone Katina. Le Jour Plus, justement, indique que le PPACI a quelques difficultés. Une information confirmée aussi par La Voix originale. Et ce journal parle aussi, hein, donc La Voix originale, de cette nécessité d'alliance entre le PPACI et donc le PDCI-RDA. C'est en tout cas l'avis d'un professeur du nom d'Assis Joseph Beignet, qui est cadre du PPACI. Et pour lui, cette alliance permettra de délivrer la Côte d'Ivoire. Le confrère La Nouvelle Alliance plaide lui aussi, hein, pour une alliance des deux parties, notamment à Yopougon. PDCI, PPACI, pourquoi une alliance s'impose, écrit justement ce confrère. L'alliance FPI-RHDP se renforce aussi, si on s'en tient au confrère Le Patriote, qui annonce que pour la régionale, dans le Morono, le RHDP retire son candidat au profit d'Afinguessan. Soir Info annonce aussi que pour les régionales, dans le Morono, le RHDP fait retirer la candidature d'Aoundian au profit d'Afi. Et au plateau, le FPI s'allie au candidat du RHDP. Et pour terminer, infrastructure socio-économique, Fraternité Matin, Soir Info, le rassemblement l'annonce. Le cinquième pont d'Abidjan sera ouvert à la circulation le 3 août prochain.
Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Comé, pour cette bonne nouvelle. Enfin, nous vous retrouverons dans l'édition de 8 heures pour le même exercice, notamment la revue des titres. Nous abordons la dernière ligne droite de ce journal, l'invité de la rédaction qui n'est autre que l'avocate, secrétaire générale et porte-parole du Women Caucus for Lobbying, section Côte d'Ivoire, maître Francine Akangui. Alors, dans une déclaration rendue publique le 19 juin dernier à Abidjan, la section ivoirienne du Women Caucus for Lobbying a demandé aux partis politiques ivoiriens de respecter le quota des 30% des femmes dans les assemblées élues à l'occasion des élections locales du 2 septembre prochain. Maître Francine Akangui, invité de la rédaction, c'est un entretien mené par Soro Adams à suivre maintenant.
Bonjour maître Francine Akangui.
Bonjour.
C'est quoi le Women Caucus for Lobbying?
Alors le Women Caucus for Lobbying, c'est un mouvement panafricain, un mouvement de femmes panafricains qui est né lors d'une conférence de femmes qui a eu lieu à Kigali, au Rwanda, et qui a pour objectif d'œuvrer à l'amélioration de la représentativité des femmes aux postes de décision et dans les assemblées élues.
Alors, représentativité des femmes dans les assemblées élues, on en entend parler, mais si vous devriez l'expliquer pour la compréhension de tout le monde, que diriez-vous?
Alors, ce que je dirais, c'est que en Côte d'Ivoire, nous avons une loi depuis 2019 qui impose aux partis politiques de mettre 30% d'inscrits à 30% de femmes sur leur liste, notamment aux municipales et aux régionales qui sont des scrutins à liste. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de représentativité des femmes au niveau des assemblées élues, c'est-à-dire les 30% de femmes exigées par la loi. Ensuite, au niveau de la représentativité et au niveau des postes de responsabilité, des postes de décision, là, il n'y a pas de quota, bien évidemment, mais nous estimons que ça va ensemble, puisque plus on aura de femmes à des postes de responsabilité, et plus les femmes auront les moyens de se présenter à des postes électifs.
Maître Francine Akangui, vous avez demandé, votre association, bien sûr, a demandé l'application stricte de la loi, c'est-à-dire cette loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues en Côte d'Ivoire. Parce que quelque chose coincerait quelque part?
Tout à fait, parce que cette loi-là, comme je vous l'ai dit, elle date de 2019, octobre 2019. Et nous avons eu des élections en 2021 et nous avons vu que ce quota n'a été respecté par aucun parti politique et aucune sanction n'a été prise. Nous allons bientôt avoir des élections municipales et régionales en septembre prochain. Et donc, nous ne voulons pas que ce même scénario se reproduise, à savoir que les partis politiques ne respectent pas la loi et donc n'inscrivent pas 30% de candidatures féminines sur leur liste.
Mais à qui la faute ? Aux femmes elles-mêmes ou aux partis politiques ?
On va dire que la faute, elle est partagée. Les torts sont partagés, mais partagés entre les femmes, les hommes, les autorités. Puisque déjà, au niveau de la commission électorale indépendante, elle devrait aussi respecter le texte qui dit que si les listes de candidature ne respectent pas ce quota de 30%, les listes ne devraient pas être acceptées. Donc ça, c'est déjà la première des conditions. Ensuite, les femmes, effectivement, qui sont dans les partis politiques, souvent, elles n'osent pas occuper des postes décisionnels, c'est-à-dire que vous allez les trouver au niveau de la mobilisation, au niveau de la logistique, au niveau de la restauration. Mais on ne va pas les retrouver au niveau du comité exécutif où il y en aura en tout cas un nombre très très faible. Donc il faut que les femmes elles-mêmes s'imposent quand elles sont dans les partis politiques. Et puis quand elles veulent faire de la politique aussi, il faut qu'elles osent faire de la politique pour celles qui veulent. Il y en a qui aiment faire la politique mais qui n'osent pas. N'osent pas se lancer, elles ont peur du qu'en dira-t-on, elles ont peur aussi des violences qu'elles peuvent subir, du harcèlement qu'elles peuvent subir, des intimidations qu'elles peuvent subir. Donc nous leur disons d'oser, d'avoir confiance en elles et d'y aller. Maintenant les hommes, côté des hommes, il faut aussi qu'ils encouragent les femmes à se présenter. Il ne faut pas qu'ils aient peur en se disant les femmes viennent pour prendre notre place. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, les femmes viennent pour les accompagner à faire une meilleure politique pour les populations.
Mais Maître Francine Akangui, une application stricte de la loi, est-ce possible ?
C'est souhaitable en tout cas, parce qu'une loi, quand on l'adopte, elle est faite pour être appliquée. Quand on prend des lois, c'est pour les appliquer, ce n'est pas juste pour décorer notre ordonnancement juridique. Donc c'est souhaitable, voire exiger que la loi soit appliquée.
Et quel serait votre message aux uns et aux autres ?
Le message, c'est de dire que c'est pour une société développée, pour un bien-être de tous, il faut la participation de tous. Et donc, on ne peut pas faire de la politique en laissant une partie de la population. Quand on sait que la population ivoirienne est composée à 50% de femmes, on ne peut pas faire la politique en laissant de côté ces 50% de femmes. Et on ne demande même pas de mettre ces 50%-là dans ces assemblées élues ou à des postes de décision, on demande 30%. C'est un minimum. Chacun devrait s'engager à ce que ce minimum-là soit respecté.
Je vous remercie, Maître Francine Akangui.
C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir faire passer ce message.
Avocate, secrétaire générale et porte-parole du Women Caucus for Lobbying, section Côte d'Ivoire, Maître Francine Akangui, était l'invitée de la rédaction ce jeudi matin. Elle répondait aux questions de Soro Adams, un entretien qui met d'ailleurs fin à cette édition. Le rappel des titres à présent. Un projet de loi dans le cadre des mesures générales portant modification de la loi relative au pouvoir exécutif et législatif a été adopté hier en Conseil des ministres. C'est ce qu'a apporté le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, que vous avez entendu en début d'édition. Gestion des prévisions de trésorerie, le PAGEF renforce durant 5 jours les capacités d'une 30aine d'agents de la Direction générale des financements à Yamoussoukro afin d'assurer une gestion plus efficace de celle de l'État exécutée par les comptables publics. Et puis sur le continent, République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu et son parti ne déposeront pas de candidature en raison du fichier électoral pas très fiable selon lui. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 8h.
La fréquence de la paix. Yo, mais c'est. Oh, la dame, monsieur. Yaga, yo. Bless up the fire, could never stop at the wire. Yo, mais c'est. La paix ensemble, c'est possible maintenant.